La revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Une bonne nouvelle pour démarrer ce tour d'horizon de la presse mondiale. Elle concerne une jeune Saoudienne bloquée à l'aéroport de Bangkok en Thaïlande après avoir fui sa famille.
Rahaf Mohamed Al-Kounoun a 18 ans et depuis dimanche soir, elle était barricadée dans une chambre d'hôtel pour échapper à des officiels saoudiens qui, elle l'affirme, voulaient la renvoyer auprès de ses parents. Ils vont me tuer si je retourne en Arabie Saoudite. Voilà ce que déclarait la jeune femme dans ses appels à l'aide lancés sur son compte Twitter et abondamment repris par les journaux asiatiques comme le Siasat Daily en Inde.
My name is Rahaf and I'm still in the room. I have no choice. They said I have to go tomorrow and no one can help me right now.
Car Rahaf refuse le mariage auquel ses parents veulent la forcer. Elle veut vivre libre, comme elle l'entend. Mais pour sa famille, le simple fait qu'elle ait décidé de se couper les cheveux, dit-elle, était inacceptable. La jeune femme était donc tenue enfermée chez elle depuis 6 mois. Elle a pu s'échapper à la faveur d'un voyage en famille au Koweït, d'où elle a réussi à prendre le premier vol pour l'Australie, où elle comptait bien demander l'asile. Sauf que, nous précise le Bangkok Post, ce vol faisait escale en Thaïlande et à l'aéroport de Bangkok, Rahaf a été accostée par un officiel saoudien. Il lui a confisqué son passeport et lui a dit qu'elle allait être rapatriée, qu'elle le veuille ou non. Depuis, la jeune femme a donc réussi à se réfugier dans une chambre d'hôtel d'où elle a lancé ses appels à l'aide. « Je veux l'ONU », a-t-elle écrit des dizaines de fois sur son compte Twitter. Et elle a finalement eu l'ONU. C'est là que commence la bonne nouvelle. Hier, nous dit le Bangkok Post, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a pu rejoindre Rahaf dans sa chambre et la prendre sous sa protection, négocier surtout avec les autorités thaïlandaises le fait que la jeune femme puisse rester dans le pays en attendant que soit traitée sa demande d'asile vers un pays tiers. Ce pays n'a pas été précisé. Est-ce que ce sera l'Australie, destination d'exil première de la Saoudienne ? L'édition australienne du Guardian relaye ce matin les critiques adressées au gouvernement de Canberra, car hier, la presse de l'île a appris que Rahaf avait un visa touristique valable 3 mois en Australie, visa qui avait été annulé au moment où elle l'a présenté aux douaniers de Bangkok. Alors pourquoi cette annulation? Le gouvernement de Scott Morrison n'a pas répondu pour le moment à cette question et ça laisse le champ libre aux soupçons de pression qui auraient été exercés sur Canberra de la part de Riyad ou tout le moins aux accusations d'hypocrisie des autorités australiennes toujours promptes à affirmer que la défense des droits des femmes est une priorité de leur politique étrangère.
Et les Nations Unies sont également au cœur d'un bras de fer sur fond de lutte contre la corruption, c'est au Guatemala.
Oui, et là-bas la commission onusienne d'enquête contre la corruption, la CICIG a été sommé hier par le président guatémaltèque Jimmy Morales de cesser ses activités et de quitter le pays sous 24 heures. On en apprend un peu plus dans les pages Amérique centrale d'El País. Morales a agi de manière complètement unilatérale et a priori illégale, nous dit le quotidien hispanophone, en mettant un terme à l'accord qui permettait aux enquêteurs de la CICIG de travailler librement au Guatemala depuis plus de 10 ans. Ça a commencé dimanche quand le principal enquêteur, Yilène Osorio, est rentré de ses vacances de Noël. Il a été bloqué pendant plus de 24 heures pour vérification par les agents de l'immigration à l'aéroport de Guatemala. Il a fallu que des forces de l'ordre diligentées par la cour constitutionnelle du pays aillent le sortir de là pour lui permettre de regagner son bureau. Pourquoi le président Morales a-t-il donc décidé de mettre ouvertement des bâtons dans les roues de la commission onusienne? Eh bien pour CNN, c'est clairement parce que les enquêteurs depuis des semaines voulaient mettre leur nez dans les comptes de la dernière campagne électorale de Jimmy Morales. Des proches du président avait déjà été inquiété pour des affaires de corruption. Alors officiellement, bien sûr, le motif est tout autre. Morales, hier, nous dit le quotidien de Guatemala, la Hora, s'est offert un vrai show pour délivrer ses arguments devant tous ses ministres réunis droit dans leurs bottes. Le président a affirmé que la CICIG était une officine malveillante à la solde d'intérêts étrangers qui se serait rendue coupable d'ingérence dans la politique interne du Guatemala. Autant d'arguments qui ne convainquent pas, il faut bien le dire, la Prensa Libre, autre quotidien du Guatemala, qui donne le point au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui rappelle que la CICIG est au Guatemala à la faveur d'un accord international que Morales ne peut pas récuser unilatéralement. La Prensa Libre salue surtout l'intransigeance dans cette affaire de la Cour constitutionnelle guatémaltèque et de la ministre de la Justice, Consuelo Porras, pour avoir eu le courage de s'opposer à ceux dans l'entourage du président qui, je cite la Prensa Libre, sont depuis trop longtemps les complices d'un véritable pacte des voyous au service d'une dictature de la corruption. corruption au Guatemala.
Et puis en bref, Camille, une date qui se rajoute dans le calendrier de ce début d'année.
Oui, ce n'est pas le New Year's Day, mais le Fat Cats Day, le jour des gros chats bien gras ou encore jour des gros bonnets, selon les calculs du Daily Telegraph anglais, repris ce matin par Courrier International. Ce jour où les rémunérations cumulées des 100 plus grands patrons britanniques a atteint le total de tout ce que leurs employés vont gagner au cours de toute l'année. Ce Fat Cats Day, donc, c'était vendredi, le 4 janvier. Et oui, il aura fallu 29 heures, soit 3 petites journées de travail pour que les 100 plus riches gagnent autant que le salaire annuel moyen des travailleurs britanniques. À eux 100, les patrons du FTSE, l'équivalent du CAC 40 français, se partageront cette année 4,3 millions d'euros. C'est 11% de plus qu'en 2017, selon les chiffres publiés par deux ONG engagées dans la dénonciation des inégalités sociales et qui en font un argument pour exiger une réforme urgente de la gouvernance des grandes entreprises. Les PDG, toujours, selon ces chiffres, gagnent en moyenne 133 fois plus d'argent que leurs salariés.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.